Que son nom soit béni. Ce matin, on va partager un thème assez... C'est une partie un peu d'un thème très vaste dans la croissance dans la foi. On en parle souvent, mais je crois que c'est le vœu du Seigneur pour chacun d'entre nous, à quelque niveau que nous en soyons. Je crois qu'avec honnêteté, on peut réaliser qu'on a besoin et on peut encore grandir dans le domaine de la foi. Et c'est la volonté du Seigneur. On va lire un premier texte dans l'Évangile de Marc au chapitre 9 et au verset 14. Marc 9, verset 14. Voilà, c'est au cours de la guérison de ce démoniaque et il y a une phrase qui est un petit peu curieuse et je voudrais que puissions la retenir pour nous ce matin dans cette introduction. Marc 9, 14, lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda « De quoi discutez-vous avec eux ?» Et un homme de la foule lui répondit « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. » Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence, il tomba et se roulait par terre en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr, mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, et compassion de nous. » Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Et regardez le verset 24, « Aussitôt le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Amen. Texte qui nous rappelle que Dieu est puissant, il fait des prodiges extraordinaires et que nous avons raison toujours de nous attendre à lui, quelle que soit les situations que nous pouvons rencontrer dans notre vie. Au verset 24, c'est juste cette phrase, elle peut paraître un peu curieuse. Il dit « Je crois ». Mais il dit aussi, dans la même phrase, qu'il a besoin d'être aidé par le Seigneur Jésus pour son incrédulité. Et la première chose que nous pouvons dire, c'est que ce qui plaît à Dieu, c'est notre honnêteté. Quelle sincérité dans le cœur de cet homme qui affirme d'un côté sa foi, mais qui reconnaît aussi la faiblesse dans sa foi, ses niveaux d'incrédulité. N'y a-t-il pas parfois, ou peut-être souvent, ce combat dans nos vies, chaque croyant honnête reconnaît qu'il y a comme deux courants dans sa vie, un courant de foi qui dit « Oui Seigneur, je crois », mais aussi ce courant d'incrédulité, de doute parfois. Alors, le niveau de l'un ou de l'autre, ça sera un peu la question de ce que nous allons partager ce matin. Mais je crois que ce que le Seigneur attend de nous, c'est effectivement que nous puissions avoir ce regard honnête, ces deux courants dans notre vie et la volonté de Dieu. C'est que l'un des courants emporte sur l'autre, bien évidemment, le courant de la foi qui prenne toute sa place, qui grandisse dans notre vie pour que le doute ait lui, par contre, de moins en moins de place au profit de la foi, qui, je le rappelle, est le seul moyen d'être agréable à Dieu. Il est écrit dans la parole, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Hébreux 11, verset 6. Si nous souhaitons plaire à Dieu et continuer ce chemin de cette vie spirituelle que nous avons commencé avec lui, du début jusqu'à la fin, il n'y aura pas d'autre moyen que d'exercer la foi. Du premier jour de notre conversion, où nous avons abandonné notre vie, où nous avons dit « oui, je crois », eh bien jusqu'au terme de notre vie ici-bas sur la terre, le seul moyen de plaire à Dieu, de lui être agréable, c'est la foi. Il n'y en a pas d'autre. Il est écrit ceci, « Et vous qui étiez autrefois étrangers, ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Si du moins, vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu et qui a été prêché à toute la créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait. Ministre, je vous ai lu Colossiens chapitre 1er et le verset 21. Du début jusqu'à la fin, notre relation avec Dieu doit être une relation de foi, de confiance, d'amour, quelque chose de solide. Et au cours de notre vie, nous devons réaliser que nous ne pourrons pas nous approcher différemment. Et c'est pour cela, j'insiste, qu'il nous faut non seulement entretenir notre foi, mais je pense veiller à sa croissance. Nous devons grandir dans la foi. Jésus, en diverses occasions, a pu définir l'attitude de certains par le degré de leur foi. Jean, de peu de foi. Ou alors, dans d'autres occasions, il a pu dire « grande foi ». Je n'ai jamais vu une aussi grande foi. Que peut-il dire de nous ce matin? Une chose est sûre, c'est que nous pouvons et que nous devons grandir dans la foi avec cette honnêteté de cœur. C'est vrai, je crois, et parfois le doute, eh bien, prend un petit peu le dessus. Et je crois que dans toutes les circonstances, et nous l'avons déjà vécu à multiples reprises, le Seigneur est bon pour chacun de nous, pour revitaliser cette foi, eh bien, que peut-être parfois, eh bien, nous nous sommes laissés piéger. Et je voudrais lire un texte avec vous. Je voudrais vous présenter un petit peu cette progression dans la foi, un petit peu comme un escalier avec quatre marches, je vous proposerai ce matin, qui nous permettent de grandir raisonnablement dans le domaine de la foi. On va lire dans Romains au chapitre 4, donc c'est ces versets que nous connaissons presque par cœur, Romains 4. Alors on pourrait relire beaucoup de choses. On va lire juste au verset 18, il est question d'Abraham. Abraham qui est présenté comme le père de tous les croyants. Si on reprenait ce chapitre dans son contexte, l'apôtre Paul a essayé de faire comprendre que devant Dieu, tous les hommes sont égaux, ils sont tous pécheurs, qu'ils soient juifs, non-juifs. Il explique que le seul moyen d'être agréable à Dieu, c'est finalement le salut par la foi en Jésus-Christ. Et il explique qu'il n'y a pas d'opposition entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Il explique que, eh bien, il le dit, hein, au verset 31 du chapitre 3, il le dit, « Annulons-nous donc la loi par la foi, loin de là, au contraire, nous confirmons la loi. » Il définit en fait que la foi n'annule pas la loi, et la foi confirme la loi. Et il va nous donner au chapitre 4 deux exemples intéressants de David, et celui sur lequel nous allons nous arrêter, celui d'Abraham qui est cité comme le père de tous les croyants. Il est dit ceci au verset 18, « Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. » Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Verset 20, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Amen. Dans ces quelques versets, nous allons voir quatre étapes qui nous permettent de grandir, d'évoluer, de croître dans la foi. Cette première marche, c'est le fondement, c'est la base. C'est important d'y revenir. Eh bien, c'est ce qui a été dit au verset 18. Espérant contre toute espérance, il crut, devint ainsi le père d'une grande nation, selon ce qui lui avait été dit. Et la première marche, c'est que le fondement de la foi, c'est la parole de Christ. La parole de Dieu qui se manifeste. La foi, elle commence à s'établir, non pas sur ce que j'ai envie, les désirs les plus profonds de mon cœur, c'est selon la parole de Dieu, selon ce qui lui avait été dit. C'est la base. Mais c'est tellement important d'y revenir, car pour certains, il est impossible d'évoluer dans les autres marches parce que cette première marche n'a tout simplement pas été franchie. Il faut redire encore ce matin que la foi n'a rien à voir avec tout le domaine des croyances. La foi n'est pas une force de persuasion. Vous savez, des fois on rencontre des gens, ils ont une foi et on se sent des fois... Et on a envie d'y croire. La foi n'a rien à voir dans le domaine des émotions, des désirs, de tout ce qui est rite religieux, de superstition même parfois pour certains. La foi n'a rien de magique. La foi n'est pas réservée à une élite plutôt qu'à une autre. La foi, dit la parole, elle vient de ce que l'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ dans Romains chapitre 10 et au verset 17. La foi, elle naît du message que l'on entend. Et ce message, c'est celui qui s'appuie sur la parole de Christ. C'est ça la foi. Je vous ai relu le même verset, Romains 10, 17, dans la version Semeur. Et puis, comme vous ne me le demandez pas, mais je sens que vous avez envie, je vais vous le lire aussi dans une troisième version, la transcription Parole vivante. Il est dit ceci: la foi, elle naît lorsqu'on entend prêcher l'Évangile. Et le message qui suscite la foi, c'est celui qui, sur l'ordre du Christ, s'appuie sur sa parole et sur sa venue. Ça, c'est la première marche. La foi, elle se base sur la parole de Christ. Et nous avons besoin de revenir et de se rappeler l'autorité de la parole de Dieu. L'autorité de la parole de Dieu. Considérez au plus haut point que c'est par la parole de l'Éternel que tout, absolument tout, a été créé. Vous savez, dans les premiers versets de la Bible, on découvre que la parole de Dieu accomplit ce qu'elle dit. Avant que Dieu parle, il n'y a rien. Après qu'il ait parlé, la chose existe. Le premier verset de la Bible, on le connaît tous, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et vous savez comment il a fait ? Il est écrit ceci: les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer, il met dans des réservoirs les abîmes, que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et la chose arrive. Il l'ordonne, et elle existe. Psaume 33, versets 6 à 9. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Avant que Dieu parle, il n'y a rien. Il parle, et la chose existe. Et c'est par sa parole que Dieu a créé toute chose, et c'est encore par sa parole qu'il accomplit le salut merveilleux au travers de cette parole qui a été faite chair en Jésus-Christ. Elle a été faite chair, elle a habité parmi les hommes. Cette parole incarnée par laquelle Dieu parle, sauve, guérit, purifie et pardonne encore aujourd'hui. Il est important de replacer l'autorité de la parole de Dieu pour comprendre que la foi, elle commence par cette première marche. La foi, elle ne se base pas sur des persuasions personnelles. Vous savez, des fois, c'est peut-être vous arrivez aussi, mais il y a des choses qu'on a désirées vraiment. Et on a essayé d'y croire de tout notre cœur. La foi, elle doit trouver le fondement sur ce que Dieu dit. Vous vous rappelez cette histoire du centenier qui était venu pour son serviteur, cette foi du centenier, justement, que le Seigneur Jésus va louer, dont je parlais tout à l'heure. Il est dit ceci, c'est le centenier qui dit: alors, Seigneur, dit alors l'officier, je ne suis pas qualifié pour te recevoir dans ma maison, mais tu n'as qu'un mot à dire. Tu n'as qu'un mot à dire et mon serviteur sera guéri. Voilà un homme qui avait compris l'autorité de la parole de Dieu, mais aussi, j'en parlerai pas ce matin, mais c'est intimement lié, parce que la foi est intimement liée à cela, mais il avait compris aussi l'obéissance à cette parole de Dieu. Reconnaître l'autorité de la parole de Christ. Pierre a dit ceci, « Seigneur, vers qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons mis toute notre confiance en toi et nous savons que tu es le Saint, l'envoyé de Dieu, dans Jean 6, verset 68. » Ce qui donne que dans une certaine circonstance, Pierre va faire agir cette foi. Il est dit, vous savez, dans cette circonstance où ils n'ont rien attrapé, Simon-Pierre va dire, mais maître, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris. Et ils avaient été bredouilles cette fois-là. Mais puisque tu me le demandes, dans d'autres versions il est écrit, sur ta parole, je jetterai le filet. Et il y a un autre exemple, on va le lire ensemble dans Matthieu 14. Matthieu 14. On va le lire ensemble parce que ça va introduire la deuxième marche. Matthieu 14, 28. Bon, il y en a déjà beaucoup avec la première marche, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a beaucoup, il y a beaucoup de travail et beaucoup de... Mais c'est bon parfois de revenir sur ses fondements, et parce que il faut construire sur les fondements solides. Et cet autre exemple où justement Pierre, vous savez, c'est lorsque Jésus marche sur les eaux. Pour comprendre, et peut-être j'en parlerai tout à l'heure, qu'on peut être exactement dans la volonté de Dieu, hein. On voit au verset 22, pardon, il est dit, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque. Donc ils sont en plein dans le dessein de Dieu, on sait ce qui se passe. Et puis au verset 28, on va juste lire ceci. Pierre lui dit, si c'est bien toi, Seigneur, ordonne-moi, alors je le lis dans une autre version, alors je ne veux pas trop vous troubler quand même. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était contraire, était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans la barque et le vent, c'est ça, amen. Peu de foi, mais il avait quand même osé ce que peu d'entre nous, je pense, auraient osé. Mais il y a toujours cette dualité un peu dans notre vie. Je crois, mais Seigneur, viens au secours de mon incrédulité, hein, comme ces deux courants. Pierre ne veut que pour seul fondement à sa foi la parole de Christ. Il dit à Jésus, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Dis un mot. Et Jésus n'a pas été... Il dit un mot, viens. Et il faut comprendre que pour Pierre, ce « vient », c'est aussi solide que s'il y avait eu un petit îlot pour poser le pied, qui est peut-être quelque chose de plus rassurant pour nous, pour enjamber la barque. Pour Pierre, cette parole de Christ, c'était aussi solide que cela, pour oser s'aventurer et faire cet acte extraordinaire de marcher sur les eaux. Mais notre combat entre le doute et parfois et l'incrédulité se trouve aussi là. Voyant que le vent était fort, il eut peur. La première marche pour grandir dans la foi, c'est de poser cette bonne base. C'est que la foi, elle naît de ce que Dieu nous dit, de la parole de Christ. Celui qui, comment je sais aujourd'hui que j'ai le salut de mon âme? Parce que la parole est claire, celui qui croit au Fils, il a la vie. Le fondement pour le salut de mon âme, il est sur l'autorité de la parole de Dieu. Il l'a dit, ça s'accomplira. Et ça s'accomplit déjà dans notre vie. Et la deuxième marche, c'est cette nécessité pour nous de faire abstraction des circonstances. Il y a dans le domaine de la foi comme une sorte de contre-attaque du monde visible. Et malheureusement, dans la chrétienté, c'est plutôt la marche où il y a vraiment beaucoup, c'est une hécatombe pour tous ceux qui ont bien commencé. Pourquoi? Parce que à notre vie s'attachent de grandes promesses, de belles promesses. Dieu nous parle, Dieu nous fait des révélations, il y a des choses extraordinaires qui s'attachent à notre vie. Et combien sont nombreux celles et ceux qui avaient bien commencé. L'autorité de la parole de Dieu était bien là sur leur vie, et pourtant se sont arrêtés. Pourquoi? Parce que la réalité de ce qu'ils étaient en train de vivre était si loin de cette parole qu'ils avaient reçue. Regardez l'histoire de Joseph. Quelle révélation! Ce songe où Dieu lui montre ce qu'il va être plus tard. Et quel contraste de se retrouver dans la citerne, dans la prison, tous ces événements. Et on peut avoir reçu de belles promesses. Il y a parfois un décalage entre la réalité de ce que nous pouvons vivre. Et c'est pour ça que je disais qu'il faut faire abstraction, et c'est cette deuxième marche qui est peut-être parfois un peu compliquée, avec ce monde visible qui crée parfois un immense décalage. Pourquoi? Parce que le temps de Dieu n'est pas forcément le temps des hommes. Pourquoi ce décalage? Parce que la façon d'agir de Dieu est tellement en décalage avec notre façon d'agir, notre compréhension des choses. Que ce soit dans le domaine du travail, que ce soit dans le domaine des études, conjoint, appel à servir Dieu, servir dans l'Église, tellement de choses dans notre vie jour après jour, Dieu a pu nous révéler des choses, nous montrer, nous parler de manière très claire. Et petite parenthèse, il est important pour des choix importants de notre vie de savoir quelle est la volonté de Dieu. Et cette volonté, je crois qu'elle se confirme de mille et une manières. Vous savez que Dieu n'est pas limité dans sa façon de s'exprimer pour nous. Nous avons la Bible, nous avons des événements, il parle aussi au travers de rêves, etc. Tellement de situations où nous pouvons être au contact de la parole de Dieu, avec des promesses extraordinaires qui s'attachent à nos vies. Et pourtant, si parfois nous ne faisons pas totalement abstraction à ce que nous voyons d'une manière visible, à la réalité qui peut être en total décalage avec cette promesse, combien peuvent laisser cette voie de l'incrédulité et du doute submerger le courant de la foi? Combien ont abandonné, découragé, parce que la réalité de ce qu'ils ont été amenés à vivre était plus quelque chose qui leur a fait peur, comme ce qu'a vécu Pierre, mais quelque chose qui était en total décalage, et ils n'ont pas persévéré. Quand la promesse a été faite à Abraham pour la première fois, dans le texte que nous avons lu, il avait 75 ans. On pourrait lire ces textes ensemble dans Genèse chapitre 12, regardez avec moi. Genèse chapitre 12, verset 1er. Cette deuxième marche, faire abstraction, eh bien, des circonstances de ce monde visible qui peut nous décourager. Nous avons lu tout à l'heure dans Romains que Abraham ne considéra pas que son corps était déjà usé. C'est ça, cette réalité sur laquelle il ne s'est pas laissé influencer, même si nous devons pouvoir nuancer par rapport à certains versets. Nous lisons donc Genèse chapitre 12, verset 1er, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta maison, de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Donc ça, c'est cette première réalité. Lorsque la promesse s'attache à sa vie, il pouvait procréer. Puisque si vous lisez les chapitres suivants, vous verrez que même une dizaine d'années plus tard, il va engendrer au chapitre 16 Ismaël. Mais le verset que nous avons lu dans Romains parle de l'époque où Abraham avait 99 ans. Au chapitre 17, et au verset 15, il est écrit ceci. Dieu dit encore à Abraham, je vais le lire dans la version Semeur, vous verrez, on n'est pas très loin. Pour ce qui concerne ta femme Sarai, tu ne l'appelleras plus Sarai, ma princesse, désormais son nom est Sarah, princesse. Je la bénirai et je t'accorderai par elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra la mère de plusieurs nations. Des rois de plusieurs peuples sortiront d'elle. Alors Abraham se prosterna de nouveau la face contre terre et il se mit à rire en se disant intérieurement, « Et quoi ? Un homme centenaire peut-il encore avoir un enfant ? Et Sarah, une femme de 90 ans, peut-elle donner naissance à un enfant ?» Et il dit à Dieu, « Tout ce que je demande, c'est qu'Ismaël vive et que tu prennes soin de lui. » Dieu reprit, « Mais non, c'est Sarah, ta femme, qui te donnera un fils. Tu l'appelleras Isaac. » Et j'établirai mon alliance avec lui pour l'éternité et avec sa descendance après lui. En ce qui concerne Ismaël, j'ai aussi entendu ta prière en sa faveur. Oui, je le bénirai. Je lui donnerai aussi de très nombreux descendants. Je me le multiplierai à l'extrême. 12 princes seront issus de lui et je ferai de lui l'ancêtre d'une grande nation. Mais j'établirai mon alliance avec Isaac, le fils que Sarah te donnera l'année prochaine à cette époque. Après avoir achevé de parler avec Abraham, Dieu s'éleva au-dessus de lui. Ce que nous pouvons dire dans cette circonstance, c'est que désormais, en dehors d'un miracle, toute possibilité de procréer pour Abraham et son épouse avait définitivement disparu. Toutefois, comme le dit l'apôtre Paul aux Romains, sans faiblir dans la foi, il ne considéra pas que son corps était déjà usé parce qu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Ça, c'est la deuxième marche. Une fois que nous avons posé la foi sur la parole, sur la révélation de la promesse, et on le voit même dans les circonstances particulières, je ne sais pas si j'aurai le temps de le dire, mais Dieu se plaît aussi à renouveler cette alliance, ces promesses. Je parle souvent des clins d'œil de Dieu qui sont là sur notre vie et qui sont comme autant de confirmations, de rappels que Dieu nous a fait une promesse. Je vais aller un petit peu plus loin sur la troisième marche, en revenant sur ce texte de Romains, où il est dit ceci, « Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi. » Alors ça, c'est une troisième marche qui est extraordinaire. Dans ce troisième stade, après avoir fait volontairement abstraction des choses terrestres qui sont là plus pour alimenter le doute que la foi dans nos cœurs, Abraham décide de fixer les yeux sur les réalités célestes. Et là, c'est un petit peu comme un prodige, un miracle qui se produit dans notre vie. On ne peut pas l'expliquer, mais la foi va se fortifier elle-même. C'est quelque chose de prodigieux. Il est dit dans la transcription parole vivante, « S'appuyant sur la promesse divine, il ne succomba pas au doute, mais puisant sa force dans la foi. » Curieux comme expression, « puisant sa force dans la foi. » Alors, je le dis quand même, c'est important. C'est pas la foi qui est une puissance. C'est l'objet de notre foi. N'oublions jamais que c'est Dieu qui est puissant. C'est lui qui agit. C'est pas la foi en elle-même. Il est écrit, il y a foi en Dieu. La foi n'est pas la puissance, mais Dieu est tout puissant. Et ce que nous dit cette troisième marche, c'est que, en faisant abstraction de ces réalités qui semblent si contraires aux réalités de la promesse qui se sont attachées à notre vie, qu'est-ce que nous faisons? Nous détachons nos yeux des réalités terrestres, mais nous les levons vers le Seigneur pour nous rappeler cette promesse. Vous savez, on a cette facilité de broyer du noir. Ça vous arrive? Quand on passe à quelque chose de négatif, ça nous prend, ça nous inquiète, on le pense, on le rumine, et qu'est-ce que ça fait? Plus on rentre dans cette spirale, plus on s'enfonce. Ben, je pense que d'une certaine manière, à l'inverse, plus nous nous attachons à ces promesses, plus nous regardons à cette réalité divine que Dieu a implantée dans notre vie, plus nous faisons abstraction à ces réalités qui semblent contraires à la parole de foi qui nous a été donnée, plus nous ruminons cette promesse, il se passe un prodige dans notre vie. La foi, elle s'affermit. La foi, elle prend des forces. C'est comme un muscle. Vous savez, des fois, on fait un petit peu de sport, là, pour... C'est pareil. Et c'est comme un prodige. J'aime à penser l'attitude de Marie, la mère de Jésus. C'est extraordinaire. Vous avez ce bébé, ils sont dans les tables. Et là, il y a des gens qui viennent pour l'adorer, amener des trésors. C'est complètement hallucinant. La réalité de ce qu'ils vivent, ils n'ont même pas eu une place à l'hôtel. Voilà. Il s'est attaché des promesses à ce petit bébé, digne d'un des plus grands rois. Quel contraste. Et il est dit que Marie, elle repassait toutes ces choses dans son cœur. Il y avait des choses qui dépassaient la réalité. Et c'est vrai que des fois, Dieu nous fait des promesses, il y a des choses qui s'attachent à notre vie. Je parlais de Joseph, il y a d'autres exemples dans la parole de Dieu. Mais c'est extraordinaire. La réalité semble en décalage, mais nous avons cette possibilité. C'est de fortifier notre foi en ruminant les promesses que le Seigneur nous a faites. On ne comprend pas tout, mais on décide de ne pas se faire piéger par le doute qui voudrait submerger nos vies, mais de ressasser ces paroles, ces promesses, afin que notre foi soit fortifiée, puiser sa force dans la foi, dans la contemplation des promesses, à tel point, et là on est sur la troisième marche, on va arriver sur la quatrième marche, à tel point que pour Abraham, une impossibilité absolue ne peut plus l'ébranler. Il l'a dit, ça se fera. Ça, c'est la certitude. Et en fait, la quatrième marche, c'est cette pleine conviction dont il est écrit, je vous relis ce verset, et ayant la pleine conviction. Là, on est à un niveau beaucoup plus élevé. Il a la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Plus rien n'est impossible. Plus de doute permis sur la parole qui a été donnée. Quitte à croire l'impensable. Il l'a dit, ça se fera. Qu'importe, Dieu est tout puissant. Voici ce que déclare l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Qu'est-ce que la foi ? C'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. C'est une manière de la posséder déjà par avance. Croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Abraham est arrivé à ce stade. Cette conviction est profonde au fond de lui-même que la promesse de Dieu, elle lui appartient déjà dans l'invisible. Aussi certainement que le jour succède à la nuit, ce que Dieu a promis, il va le faire. Cette pleine conviction dans le cœur d'Abraham, nous la voyons très clairement lorsqu'après la naissance d'Isaac, Dieu met Abraham à l'épreuve. Alors là aussi, il y a énormément de choses à dire. Je vous relis juste un passage. Il est dit ceci. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Il est écrit, Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et il n'est pas écrit « je reviendrai ». Il est écrit « nous reviendrons auprès de vous ». Abraham sait qu'il va obéir. Il sait, il va obéir. Mais Abraham est tellement assuré de la promesse de Dieu, plus rien ne peut le faire douter. Il a la pleine conviction. Il l'a dit, il le fera. Plus rien ne se met entre cette promesse et l'accomplissement de cette promesse. Il est tellement assuré de la promesse d'une postérité que Dieu lui a donnée en Isaac, qu'il savait que même si, en obéissant à la parole de Dieu, il égorgeait son fils, Dieu était capable de le ressusciter. Il peut y avoir des promesses qui se sont attachées dans des circonstances de notre vie. C'est comme une situation, elle est morte. La pleine conviction, c'est de croire que si même la réalité semble contraire à la réalisation de la promesse de Dieu, vous vous rendez compte que Dieu a demandé de sacrifier ce qu'il avait promis. C'est impressionnant ce passage. Eh bien, même dans ce cas-là, la pleine conviction, c'est que il l'a promis, ça se fera. Je ne sais pas comment, mais Dieu est capable de ressusciter même des situations qui sont mortes dans notre vie. En tout cas, c'est le commentaire de l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui dit « Par la foi, Abraham a offert Isaac en sacrifice lorsque Dieu l'a mis à l'épreuve. » Oui, il était en train d'offrir son fils unique. Lui qui avait eu la promesse et à qui Dieu avait dit « C'est par Isaac que tu auras une descendance. » Dieu, estimait Abraham, est assez puissant pour ressusciter un mort. Et son fils lui a été rendu, c'est une forme de préfiguration, bien sûr, de la résurrection de Jésus-Christ. Ainsi, dans une parfaite obéissance, j'en ai parlé très rapidement tout à l'heure, mais c'est intimement lié, l'obéissance à cette parole de Dieu qui nous a été donnée, Abraham tenait jusqu'au bout cette promesse de Dieu. Jamais il ne l'a lâchée. Même en ayant ce couteau, il avait toujours dans sa vie cette promesse de Dieu. La pleine conviction, eh bien, c'est de croire qu'il est impossible, que la parole de Dieu ne s'accomplisse pas. C'est ça la pleine conviction. Pour croire que Dieu est capable, je vous le dis mes frères et sœurs, de remuer ciel et terre pour que la parole qu'il a donnée s'accomplisse. Au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, qu'importe. Mais la pleine conviction, c'est ce stade où il l'a dit. Il le fera. Alléluia. Je voudrais conclure en disant ceci. Je crois qu'avec honnêteté, nous pouvons dire que nous pouvons faire tous des progrès. Voilà, même si on est entre la 3 et la 4, voilà, on peut tous progresser dans le domaine de la foi. Et nous pouvons, je pense, avec honnêteté, nous associer aussi à cette prière. Je crois, Seigneur, mais viens, viens à mon secours. Voilà, il y a encore des germes d'incrédulité par rapport à certaines situations. Viens, Seigneur, viens à mon secours. Dieu est prêt, toute la parole de Dieu nous le montre, à nous aider à grandir dans la foi. Il est patient, il est capable de nous reprendre même dans des situations où le doute a pratiquement submergé la foi lorsque nous crions à lui, lorsque nous revenons à lui, comme le disait tout à l'heure Jeanson, avec cette honnêteté, un cœur repentant. Il est là pour nous remettre sur le droit chemin. Je crois même que des promesses qui ont été faites dans notre vie et on s'est parfois détourné complètement, Dieu peut nous remettre sur les rails de ces promesses-là. Lorsque nous venons à nouveau à lui, un cœur repentant, Dieu est celui qui réhabilite beaucoup de choses dans nos vies. Dieu est prêt à nous aider à grandir de la foi. Vous savez, Abraham, j'ai intentionnellement pas pris le temps d'en parler pour pas alourdir le message, mais vous savez, Abraham a connu ses échecs. Il était même dit dans le texte tout à l'heure qu'il a ri. Donc on te dit, voilà, il faut comprendre le contexte. Abraham a connu ses échecs avec Ismaël notamment. Nous connaissons aussi les nôtres. On est fait de la même nature que lui. Vous savez, les disciples ont parfois été repris rudement, on l'a vu tout à l'heure dans ce texte, par le Seigneur Jésus, pour leur manque de foi. Ça devait être difficile quand même pour les disciples, ceux qui devaient être un peu l'élite autour de Jésus, et de voir que certains autres étaient loués pour leur grande foi, et eux qui étaient traités de gens de peu de foi. Nous connaissons nos échecs, nous aussi. La foi puissante, celle qui honore Dieu, cette foi, alors je redis, c'est pas la foi qui est puissante, c'est la foi en Dieu. Cette foi en Dieu véritable qui s'appuie sur la parole et l'autorité de Christ, elle regarde la promesse, elle fait abstraction de ce monde visible, elle s'appuie sur Dieu seul, elle a ce regard constant dans sa vie sur le céleste et elle a cette pleine conviction. Il l'a dit, ce sera fait. Que le nom du Seigneur soit béni.